du logement.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Julien de Normandie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être la ministre du Logement et de la Ville. De grosses actualités avec vous aujourd'hui. Évidemment, les chiffres sur la couverture, votre plan très haut débit, la couverture du territoire français avec plutôt des bons chiffres, un chiffre 2019, mais quelle perspective pour 2020. Et puis, effectivement, les chiffres qui sont tombés de la Fédération des promoteurs immobiliers sur le logement neuf, où on voit que 2019 est une année déséquilibre avec un gros S. Hein, on y reviendra dans un instant. D'abord, les couvertures du haut débit, c'est les chiffres de l'ARCEP qui vont être publiés ce soir. Vous allez nous en donner peut-être les grandes lignes parce qu'ils sont plutôt bons. Ils vont dans votre sens.
Exactement. Il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, quand je suis entré au gouvernement, j'ai fait de la couverture du numérique un objectif très important. Parce que vous soyez un ménage, que vous soyez une entreprise, que vous soyez un indépendant, c'est juste insupportable de ne pas avoir accès à l'Internet très haut débit. C'est non seulement insupportable, mais en plus, c'est un facteur de compétitivité. Et quand vous n'avez pas accès au numérique, que vous êtes agriculteur, c'est une galère sans nom pour faire les demandes des aides à la PAC. Que quand vous êtes un indépendant, c'est beaucoup plus compliqué de payer vos factures. Et quand vous êtes une entreprise, là, vous êtes désavantagé par rapport à vos compétiteurs.
Alors,
et donc, face à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un grand plan, je ne rentre pas sur le détail. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est les résultats.
Ouais. Ce plan... Très haut débit quand même 2022, c'était votre objectif. Et bon débit, bon haut débit.
Exactement.
2020.
Et donc... Pour atteindre cet objectif-là, il fallait profondément accélérer. En 2017, l'année 2017, on a à peu près relié 2 millions de foyers, de locaux à la fibre, c'est-à-dire l'Internet de très haut débit. Et en 2017, j'avais fixé un objectif de 4 millions de foyers ou de locaux raccordables en 2019. On m'avait dit à l'époque, c'est inenvisageable, c'est beaucoup trop élevé. Et les chiffres qu'on va annoncer ce soir, que l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, va annoncer ce soir, c'est que sur l'année 2019, on aura rendu raccordable 4,8 millions de locaux. 4,8 millions en une année, simplement. Et ça, c'est plus de 2 fois plus ce qu'on faisait en 2017. Et donc, c'est une profonde dynamique qui a été lancée. C'est l'État, c'est les collectivités territoriales, ce sont les opérateurs. C'est des mesures très fortes qu'on a prises, dont une, si je devais n'en retenir qu'une, c'est qu'aujourd'hui, tous les engagements de déploiement, ils ont été rendus contraignants pour les opérateurs.
Oui, c'est-à-dire du coup, ça coûte cher. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un de chez Orange qui me disait mais c'est quand même un coût énorme pour les opérateurs.
Oui, mais vous savez, pendant des années, on a vécu sur le bon vouloir. C'est-à-dire qu'on disait aux opérateurs, allez couvrir telle ou telle zone. Évidemment, vous alliez couvrir les zones les plus rentables.
Oui.
Et le système était organisé comme cela. Moi, je n'ai jamais jeté la pierre sur eux. Le système était organisé comme cela. On a modifié l'organisation. On a fixé des objectifs. On s'est mis d'accord. On a passé un contrat très important. Mais ce contrat, il est contraignant. Et donc, les opérateurs, aujourd'hui, ils ont des objectifs de calendrier pour atteindre tous ces objectifs. Et c'est notamment ça qui a permis, pas que, mais notamment ça, qui a permis d'atteindre ces très bons chiffres pour 2019. 4,8 millions de locaux raccordables en une année. C'est extrêmement positif. Et je terminerai là-dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête dans tout le monde économique, c'est qu'on est en train d'avoir une infrastructure du numérique en France qui n'aura pas d'égal au niveau européen, ou à tout le moins par rapport aux économies comparables au niveau européen. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne. On est en train de construire un système de réseau Internet qui est bien plus performant que nos voisins proches. Et ça, c'est extrêmement avantageux, notamment pour les entreprises.
Et qu'est-ce qui reste? Parce que, est-ce que fin 2020, malgré ces bons chiffres là qui ont été publiés, fin 2020, est-ce que vous pouvez nous certifier qu'il y aura la couverture totale de l'Hexagone sur le haut débit?
Oui. Ça, aujourd'hui, tous les indicateurs que je suis au jour le jour, si je puis dire, sont au vert pour atteindre cet objectif du bon débit pour tous en 2020. Ça ne veut pas dire la fibre, ça veut dire du bon débit, parce que vous avez d'autres technologies. Et ensuite, 2022, c'est le jalon postérieur.
Ultime.
2022, c'est du très haut débit pour tous. Et tout ça, ça doit nous être permis par une accélération du déploiement de la fibre, d'autres technologies.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre technologie?
Vous avez ce qu'on appelle le hertzien, c'est-à-dire la 4G mobile. Voilà. Vous avez parfois, dans certaines zones, du satellitaire. On a envoyé un satellite, enfin, les opérateurs et les constructeurs ont envoyé un satellite il y a quelques mois pour pouvoir justement compléter la couverture. Bref, on a des solutions alternatives qui sont à prendre en compte. Mais toutes ces solutions alternatives, elles ne sont là que pour le temps où on aura complètement fini de fibrer le territoire national, parce que c'est cet objectif de la société du gigabit en 2025, où là aussi la France sera au rendez-vous et bien avant.
Et de la fibre optique de 2025, ça sera la fibre optique ?
Au moment où je vous parle, la seule technologie nous permettant de massifier cette couverture du gigabit, c'est la fibre optique. C'est pour ça qu'on la déploie de manière aussi forte. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté les autres technologies, mais si aujourd'hui on veut cette société du gigabit, la fibre, ce qu'on appelle le FTTH, a un rôle majeur à jouer.
Mais en même temps, dans les zones très éloignées, la fibre, c'est très difficile. Hein. C'est là où c'est un coût énorme pour les opérateurs, parce qu'il faut tirer il faut tirer des fils.
Mais c'est là aussi, il fallait organiser un système. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé. J'avais eu l'occasion d'y travailler avant d'être nommé ministre. Quand vous prenez la téléphonie mobile, par exemple, il y a encore des zones blanches dans notre territoire. On a là aussi lancé un plan de lutte contre ces zones blanches absolument massif. Mmh. Songez que depuis janvier 2018, c'est plus de 5000 communes qui ont basculé des anciennes technologies vers les nouvelles. Mais comment était organisé le système ? L'État avait dans sa main ce qu'on appelle les fréquences. Il faisait des enchères. Mmh. Et donc, qu'est-ce que faisait l'État ?
Il continue à en faire, du reste.
Oui, mais, enfin, ça, c'est un autre point. Mais on a changé les critères. Qu'est-ce qu'il faisait l'État ? Il disait aux opérateurs, on fait des enchères et le seul critère, c'est l'argent que vous donnez. Bah, évidemment, quand vous prenez un tel système, vous organisez la chose pour qu'ensuite les opérateurs ils aillent dans les endroits les plus rentables. Et évidemment, en 2018, moi, j'ai inversé la chose. J'ai dit maintenant, les enchères, on va le faire sur les engagements d'aménagement dans les ruralités. Donc, plus vous allez couvrir les zones rurales, plus à ce moment-là...
Vous avez une chance d'obtenir une licence. Oui.
Exactement. Et donc, on a inversé la tendance. Et grâce à ça, eh ben aujourd'hui, on est en train de massifier la couverture et de numérique et de téléphonie mobile.
Et comme vous dites, les résultats publiés par l'ARCEP sont là, en l'occurrence. Mais Julien Normandie, dans les montagnes, il y a des endroits quand même qui sont très difficiles pour la fibre. Qu'est-ce que vous prévoyez ?
Vous avez deux possibilités. Vous avez avant que la fibre n'arrive. Parce qu'à un moment donné, je n'exclus pas du tout qu'elle y arrive. Mais avant que la fibre n'arrive, vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle les solutions hertziennes, le 4G mobile. C'est là des pylônes que nous sommes en train de déployer de manière massive. À terme, ce sera 12 000 pylônes que nous sommes en train de déployer. Alors, ça prendra plusieurs années, hein, mais 12 000 nouveaux pylônes, nouvelles antennes pour aller couvrir autant de zones blanches. C'est massif. Et la deuxième solution, c'est la solution, évidemment, satellitaire. Mais pour que ça ne coûte pas cher, ou moins cher...
C'est une solution, mais qui peut coûter cher.
Exactement. Pour que ça coûte moins cher, on a créé un guichet qui permet d'accompagner celles et ceux qui en ont besoin et leur donner un coup de pouce financier. Parce que là aussi, c'est une double injustice. Vous n'avez pas forcément la technologie que vous voudriez. Mmh. Et en plus, vous avez une technologie qui coûte plus cher. Donc ça aussi, on l'a créé.
Sur la question de la 5G. 5G, on sait que c'est un débat pour savoir s'il faut interdire, comment... un des arguments de s'il fallait interdire la 5G de Huawei pour des questions de sécurité. Un des arguments avancé par le groupe Bouygues, mais aussi par le groupe Altis, donc propriétaire de BFM, c'est de dire, nous, on a la moitié de nos antennes, enfin, une grande partie de nos antennes qui sont déployées avec la technologie Huawei. C'est ce qui nous permet d'aller dans les territoires. Donc, nous, ça peut nous pénaliser énormément. Ça peut aussi, vous, le ministre de la Ville, vous pénaliser, parce qu'à ce moment-là, si on doit retirer des antennes, ben à ce moment-là, il y a votre couverture, elle n'est plus au rendez-vous. Quelle est votre position ? Parce qu'à la limite, vous êtes dans une situation un peu contradictoire par rapport à un Bruno Le Maire qui était à ce même micro hier, qui a défendu cette position.
Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut trouver un juste équilibre entre la préservation de la sécurité qui est une impérieuse nécessité et que tout le monde comprend et un accompagnement des opérateurs. Voilà. Une fois qu'on a dit ça...
Ça veut dire quoi, un accompagnement ?
C'est-à-dire...
Des indemnités, ça veut dire quoi ?
Non, ça veut dire d'avoir la temporalité permettant l'adaptation des réseaux, d'avoir un accompagnement spécifique, d'avoir une prise en compte...
Mais pour vous, Huawei, c'est très important, la technologie, pour le déploiement,
pour moi,
justement.
À la fin des fins, ce qui m'importe, c'est d'avoir des pylônes, de mettre fin aux zones blanches, d'avoir de l'internet de haut débit. Après, effectivement, dans l'État, vous avez des structures qui veillent à la sécurité et à l'indépendance. Et ça aussi, évidemment, c'est à prendre en compte.
Donc, en conclusion sur ce point, sur le haut débit, très haut débit, vous considérez que votre plan est une réussite et qu'il démontre sa force?
Ben, en tout cas, je constate...
Les chiffres de l'ARCEP...
Je constate qu'en 2019, on est très au-delà de l'objectif qu'on s'était fixé il y a 2 ans et demi, et que rendre raccordable 4,8 millions de foyers, ménages ou locaux en un an, c'est un record et c'est à mettre à l'actif de la grande famille du numérique, l'État, les collectivités territoriales qui financent beaucoup et les opérateurs.
Casquette maintenant, votre casquette de ministre du Logement, avec ces chiffres qui ont été publiés ce matin de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui montrent que... Il y a vraiment un énorme déséquilibre en fait entre l'offre et la demande. La demande, elle est là, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres secteurs impactés par le coronavirus. Mais là, il y a un énorme problème d'offre. La démonstration en 2019, là, pour le coup, elle va complètement dans le sens des promoteurs immobiliers, non ?
C'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez une demande de plus en plus forte. Pourquoi vous avez une demande de plus en plus forte ? Pour plein de raisons. D'abord parce que vous avez une capacité d'achat, et c'est très bien ainsi, de plus en plus importante, avec des taux d'intérêt qui sont très bas. Aussi parce que vous avez des modèles de société. Par rapport à il y a quelques années, ou quelques décennies, vous avez des couples recomposés, beaucoup plus
bien
de divorces.
Bien sûr, mais est-ce que ces chiffres publiés-là vous inquiètent? On va les rappeler, près de 160 000 logements vendus par les promoteurs, moins 3,3% par rapport à 2018,
ces chiffres-là,
et une offre nette en net déclin.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on continue à construire plus. Ce que je constate, c'est là, les chiffres que vous donnez sont les chiffres des promoteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas les chiffres globalisés de la construction.
Non, c'est la Fédération des promoteurs
immobiliers.
Exactement.
Et donc, c'est les chiffres mis en construction par les promoteurs. Quand vous prenez les mises en chantier de l'année 2019, on est à plus de 410 000 mises en chantier. C'est-à-dire qu'on a une diminution par rapport à l'année précédente d'environ 1%. Donc, on est loin des chiffres que vous venez de mentionner. Mais ce que je constate surtout, et ce qui, moi, forge ma détermination tous les jours, c'est qu'au quatrième trimestre de cette année 2019, on a des chiffres en forte progression dans les mises en chantier ou les autorisations de permis. Et donc, ça veut dire que toutes les réformes qu'on a portées, la loi qu'on a faite, qui s'appelle la loi Elan, aujourd'hui, elle commence à porter ses fruits.
Très contestée, hein, quand même, votre loi Elan.
Ça dépend par qui, ça dépend sur quel sujet. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'y compris là où on nous disait que c'était très compliqué ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire notamment la réorganisation du secteur du logement social.
On va en parler parce que la Cour des comptes, elle vous a quand même taclé sévèrement.
Non, elle parle d'autre chose.
On va en parler.
Parle des appels. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toutes ces réformes de fond du logement social, aujourd'hui, elles marchent, elles portent leurs fruits. Et je dirais même plus, les acteurs sont plutôt satisfaits de voir, par exemple, les regroupements s'opérer.
On voit quand même qu'on est dans une seringue, c'est-à-dire que les demandes sont là de plus en plus là, vous l'avez souligné. L'offre, elle est de plus en plus inaccessible. Et du coup, il y a les prix qui flambent.
Mais ça n'est pas que pour ça. Les prix flambent. Quelle est la principale...
Enfin, flambent, c'est un peu exagéré.
Non, mais vous avez raison. Oui. Quelle est la principale raison des prix élevés dans notre pays? Il y a la question de l'offre et de la demande. Mais il y a la question aussi des taux d'intérêt qui sont aussi bas. Il y a 15 ans, vous aviez des taux d'intérêt qui n'avaient juste aucune comparaison possible avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc face à ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accompagner les ménages les plus modestes. C'est pour ça que, par exemple, on a maintenu le prêt à taux zéro, par exemple.
Oui, alors
mais deuxièmement, il faut produire du logement abordable.
Vous le maintenez, mais en même temps, vous voulez supprimer dans des zones rurales et finalement, vous avez été obligé de le maintenir.
Non, on l'a maintenu.
Vous l'avez maintenu. Oui, vous avez été obligé de le maintenir.
Vous savez, dans la vie, peut-être mon côté ingénieur, mais moi, il n'y a qu'un truc qui m'importe, c'est le résultat.
D'accord, vous avez le contact et vous le gardez.
Oui, il est maintenu. C'est important. Et il est maintenu.
Oui, mais vous aviez voulu le supprimer dans un premier temps.
Il est maintenu. Il n'y a que le résultat qui compte.
Enfin, vous avez raison. C'est ce qui compte. Est-ce que vous pouvez garantir sur le Pinel, vous avez donné une garantie en 2020, je crois, jusqu'à 2021 même, vous garantissez qu'il y aura toujours un investissement Pinel?
Mais pareil, c'est quoi le choix que j'ai fait? C'est d'abord de donner de la visibilité aux opérateurs. Donc, quand j'ai été nommé ministre en 2017, j'ai dit le Pinel, on le prolonge sur 4 ans.
Oui.
Bon, très important. Oui. Et le deuxième élément, j'ai fait un choix de politique publique cette fois-ci. J'ai dit, est-ce qu'il est justifié que l'État incite à l'investissement locatif dans les zones détendues pour faire des zones pavillonnaires? Moi, je crois que non. Alors, c'est un choix politique. Je pense que le rôle de l'État, ça n'est pas d'inciter par l'investissement locatif, et je parle bien de l'investissement locatif, pas l'accession à la propriété, le développement de zones pavillonnaires. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé dans ces zones-là? D'arrêter le Pinel et de créer un autre dispositif qui porte mon nom, le De Normandie dans l'ancien, pour, à l'inverse, au lieu d'investir dans la création de la énième zone pavillonnaire, aller investir dans la rénovation du centre-ville.
Et est-ce que le Pinel, tel qu'il a été redéfini par De Normandie, comme vous dites, est-ce que ça va y encore... Vous pouvez donner une garantie pendant 4 ans supplémentaires.
Mais, aujourd'hui, ces dispositifs, ils courent jusqu'à après fin 2021.
Oui, mais donc, vous savez, quand vous investissez, dans le long terme.
Hein. Mais moi, je crois à un truc... profondément, c'est la stabilité, la lisibilité.
Okay, ben voilà,
donc,
comme ça,
moi, en tant que ministre, j'ai établi une politique publique. J'ai dit, le Pinel, dans les zones denses, il faut le maintenir. Dans les zones où il y a cette effervescence de zones pavillonnaires, eh ben, je le ressente vers l'investissement dans l'ancien, dans la rénovation des centres-villes.
Une dernière question, très rapidement, une réponse, s'il vous plaît. C'est que, après les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, justement sur le crédit immobilier, qui prend des proportions énormes avec ses taux bas, donc il y avait une sorte de restriction. Et on sent que la machine est un peu en train de se gripper. Est-ce que vous dites, stop, il faut raison garder?
Je dis qu'il faut protéger les consommateurs, les citoyens.
Il y a pas du...
C'est-à-dire que les recommandations visant à ce qu'il n'y ait pas d'excès dans l'attribution...
Vous êtes favorable.
Je pense que c'est notre responsabilité que de mettre des garde-fous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inciter au crédit immobilier. Mais vous savez, Xavier Bertrand a critiqué ces chiffres. Mais enfin, quand Xavier Bertrand était ministre, en 2012, c'était quelques centaines de milliers de crédits à l'accession à la propriété qui étaient faits chaque année. L'année dernière, on a fait entre 8 à 900 000 crédits immobiliers. Donc aujourd'hui, la machine, elle marche très bien, mais il faut des garde-fous pour nos concitoyens.
Merci beaucoup, Julien Normandie, d'avoir répondu à toutes ces questions. Il faut dire qu'il y avait une actualité fournie, un ministre chargé de la ville et du logement. Dans un instant, on parle d'économie et impact. On va essayer de mesurer tout ce qui nous arrive. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, est notre invité.
BFM Business, le club de l'heure H.
Il est avec nous, le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là parce que on a besoin un peu de vos lumières. On a un petit peu de mal à s'y retrouver pour savoir l'impact économique de ce coronavirus. On a l'impression que du reste, l'impact de ce virus est bien pire sur l'économie mondiale que sur le genre humain. Mais ça, c'est un autre débat.
C'est à l'évidence une crise économique très délicate, en tout cas une situation économique très délicate à gérer, dont l'ampleur est en fait évidemment beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé au début. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c'est d'ailleurs le rôle du FMI. Mais enfin, là, ils ont poussé le bouchon un peu loin. 3,3% de croissance et un petit moins 0,1 pour la baisse de l'impact sur la croissance mondiale. Quelques jours après, avec beaucoup de sérieux, l'OCDE, qui partait déjà d'un niveau plus faible, 2,9, a considéré qu'on aurait au moins un demi-point de croissance mondiale.
Ah oui, entre un demi-point et un point, donc si vous voulez...
Oui, c'est quand même très sérieux.
Et est-ce que c'était vraiment très sérieux? Pardon, là, Laurence Boone était notre invité, chef économiste, remarquable personne, économiste. Mais aujourd'hui, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien de l'impact, non?
Alors, je ne suis pas d'accord avec vous.
Non.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Tout dépend des hypothèses qu'on prend. Bon, donc le sujet, c'est d'être précis et rigoureux dans ces hypothèses. Si on considère en fait, on évoque une crise sanitaire qui dure 2 trimestres, T1, T2. À ce moment-là, c'est assez facile d'avoir une estimation... J'allais dire de ce qui va se passer. Je ne crois pas trop au rebond formidable, vous savez, tous les
barres
racontent. Mais on peut raisonnablement penser que la croissance chinoise va baisser de, mettons, 2 points pendant cette période. Enfin, 2 points qui, c'est plus au début, mais comme ça revient, et comme là, je fais des prévisions annuelles. Donc, ça revient, comme il représente 20% de la croissance mondiale, du PIB mondial, ça fait 0,4 points de moins. Rajoutez-y 0,2, 0,3, on est effectivement entre 0,5 points annuels de baisse du PIB mondial, entre 0,5 et 1 point. Mmh. C'est énorme. Et c'est dans une hypothèse où cette pandémie ne se répand pas au-delà des 2 premiers trimestres.
Des deux trimestres.
Si ça se poursuit...
Parce que certains disent même, si ça dépasse le premier trimestre et qu'il n'y a pas de rattrapage au deuxième trimestre, ça peut quand même être assez difficile à avaler pour l'économie mondiale.
Imaginez, un point de croissance, c'est géant. Ouais. Ça veut dire, pour nous, par exemple...
Pour nous, ça veut dire la récession.
Nous, ça veut dire une croissance très faible.
Ouais.
J'aime pas bien le mot récession.
Non, je sais, ça fait un petit peu peur, mais enfin, en Allemagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, on a été en négatif, très très légèrement, à la marge.
Oui, mais c'était un problème d'évolution des stocks, etc. Donc il y a eu un problème technique. Sur l'année dernière, on était quand même à 1,2. Donc, et en plus, ça a été remonté. L'INSEE, qui est raisonnable, a remonté, donc on est à zéro.
Donc pour vous, est-ce que cette année 2020, elle va être durablement impacté par ce coronavirus. Est-ce que c'est justifié ?
Ah, moi, je sais rien du tout. Hier soir, j'ai eu le bonheur sur une antenne qui est pas très loin d'ici, d'écouter avec passion trois grands profs de médecine qui exprimaient la position. C'est quand même, je vais dire, ils prennent ça très très au sérieux. Donc, très au sérieux. Une fois de plus, c'est la durée qui compte. Et il va y avoir, tout le monde l'annonce, et ça a été annoncé par Bruno Le Maire quasiment lors de votre émission.
Oui, hier matin.
Hier matin, le stade 3, il va y avoir des mesures de politique budgétaire, puisque c'est là-dessus qu'on va compter, vraiment très importantes.
Alors, qu'appelez-vous très importante? Et justement, est-ce qu'il faut un plan de relance? Comment vous voyez les moyens? Parce qu'il y a trois outils. Il y a l'outil, je dirais, le plus basique, et qu'a déjà annoncé Bruno Le Maire, c'est un plan de soutien. Soutien aux entreprises, avec la BPI qui se porte garant de tous les prêts trésorerie, des PME, etc. etc. Et puis, il y a eu l'armement de la politique monétaire qui a été utilisée par Jérôme Powell, le président de la Fed.
Je sais pas si effet.
Sans effet. Alors certains disent ça aurait pu être pire et heureusement qu'il l'a fait. Ça, c'est un point. Et puis effectivement, il y a le plan de relance budgétaire au niveau national, au niveau européen. Alors vous, le meilleur cocktail économique.
Alors attendez, ce qui va se passer de mon point de vue, politique monétaire. En réalité, éventuellement soutien, rachat direct ou indirect de titres publics de pays les plus marqués. Imaginons que les taux à 10 ans italiens se mettent à grimper. Je suis convaincu que la Banque Centrale Européenne jouera son rôle. Maintenant, l'impact qu'aurait aujourd'hui une baisse supplémentaire de taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale Européenne ne me paraît pas l'élément majeur. Mmh. Les taux d'intérêt sont très faibles. Donc c'est ça, c'est pas de ce côté-là qu'on va avoir des affaires. Deuxième sujet, ne pas oublier qu'en 2008, une des actions tout à fait étonnantes et remarquables du président Sarkozy à l'époque, a été pendant cette période très bon, c'est de permettre à la trésorerie de centaines, de milliers, dizaines de milliers d'entreprises de ne pas plomber les entreprises.
Donc voilà, c'est le dispositif qui est en train de mettre en place.
Absolument ce qu'il faut faire, oui, mais il y a mis 10 milliards contre l'avis de Bruxelles, tout ça s'est fait en catimini, etc. Et donc c'était très bien, très bien. Et puis troisièmement, politique budgétaire vigoureuse.
Plan de relance, oui.
Plan de relance. N'oubliez pas que c'est ce qui s'est passé pour les jaunes. Et moi, ce qui m'intéresse plus, sur le fond.
Donc, ça, vous y croyez pas, au plan de relance?
Si, j'y crois. Oui. J'en suis sûr. L'ordre de grandeur, sûrement, peut-être, on peut imaginer peut-être une vingtaine de milliards pour démarrer. Mmh. Ce sera important. On est quand même sur un sujet qui
Et pour faire quoi?
Pour soutenir le pouvoir d'achat des gens, pour soutenir des activités qui seraient moins impactées. Vous venez de recevoir Julien Normandie. Peut-être qu'on peut aider de manière très rapide le secteur du logement ou de la rénovation, puisque c'est un des points auxquels il est très attentif à se développer. Je veux dire, on peut en faire des choses dans ces domaines-là. Et puis, ce qui est très important, c'est un point sur lequel je fais un pari. Mmh. Je suis convaincu que l'Allemagne, qui est notre sorte de lumière dans la nuit, de la rigueur et de l'intelligence humaine.
C'est vrai qu'ils ont 50 milliards d'excédents budgétaires.
Pour ce à quoi ça sert, va comprendre, que c'est un pays vieillissant, que c'est un pays qui va être très marqué par l'affaire du commerce international, par les problèmes d'automobile, qu'il y a une croissance qui est très faible, que ça ne va pas s'améliorer, et qu'à un moment, il va falloir s'y mettre. Et là, ça joue de manière très forte, puisque pour une partie de notre activité, il s'agit bien des exportations dédiées à la zone euro.
Donc votre pari, il est sur quoi ?
Et donc, mon pari, c'est que l'Allemagne va devenir raisonnable, et que je laisse, on va dire, deux mois. Donc je suis prêt, avant les rencontres d'Aix-en-Provence de juillet, à considérer que l'Allemagne aura bougé.
Oui.
Voilà. Donc c'est un pari public. Je n'imagine pas ce pays aussi intelligent, aussi talentueux, ne pas être lucide sur le fait qu'on est quand même dans une période qui est très compliquée. En réalité, derrière tout ça, il va y avoir une remise en cause de l'organisation, tout le monde l'a dit, mais l'organisation, j'allais dire, des chaînes de valeur. On va avoir derrière Xi Jinping qui n'a pas été exceptionnel, qui va vouloir reprendre en main son pays. Mmh. Comment on reprend en main un pays ? Ben, on le reprend en disant que l'ennemi, c'est l'autre, que M. Trump va vouloir renforcer ses positions, j'allais dire, de défense des intérêts, et notamment frappé par les affaires de la technologie. Il va dire, il faut qu'on reconstruise, on refasse tout ça aux États-Unis. Donc, on rentre dans un monde dans lequel les pays très exportateurs qui ont eu des succès exceptionnels les 20 dernières années vont être remis en cause, et s'ils ne le comprennent pas, tant pis pour eux.
Oui, tant pis pour nous, peut-être derrière la clé.
Tant pis pour nous.
Oui, aussi. Mais c'est, en tout cas, c'est votre pari. Jean-Hervé Lorenzi, aussi une question sur rien à voir sur la réforme des retraites, la conférence de financement, et sur le montant. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de l'Institut Montaigne qui dit qu'il ne faut en fait pas 12 milliards, il faut 20 milliards pour arriver à l'équilibre. Vous avez un avis là-dessus?
Donc,
est-ce que la conférence de financement est morte? Et vous avez 30 secondes pour répondre, allez-y. Voilà.
Quel que soit le respect que j'ai pour l'Institut Montaigne, je pense, pour en avoir discuté, assez bien connaître le sujet, personne aujourd'hui n'est capable d'avoir une vraie vision sur ce que serait l'affaire. En plus, il y a l'état d'hypothèse. Donc je trouve que c'est un peu... Les 20 milliards me paraissent un peu fort de café. Enfin bon, deuxième sujet, la question ne se pose pas dans ces termes-là. La question se pose sur ce qu'on peut sortir sur la pénibilité et sur le conflit entre le MEDEF, qui ne veut pas qu'on touche à ce sujet, et la CFDT. Si on ne trouve pas un accord, on va vers des mois de discussions et des tensions inutiles. Je pense que les uns et les autres devraient faire un pas vers l'autre. Donc le rôle du gouvernement est, à mon avis, secondaire dans cette affaire. C'est arriver à faire qu'il y ait un bon compromis entre le MEDEF et la CFDT sur le sujet de la pénibilité. C'est le seul sujet. Le reste, moi, les chiffres, je suis trop économiste pour être
totalement... Pour y croire. C'est un comble. C'est le président du Cercle des économistes qui vous dit surtout ne croyez pas les chiffres. Merci Jean-Hervé Lorenzi. Tout est enregistré. Hein. Merci d'avoir été avec nous.
Y compris mon pari.
Y compris votre pari, mais ça, vous allez revenir. Le rendez-vous est pris dans un mois et demi pour voir si c'est vrai. Et de toute manière, vous venez nous voir évidemment avant. Merci beaucoup. Président du Cercle des économistes, c'était donc notre invité dans un instant. C'est l'économiste Nicolas Babrez qui publie l'alerte démocratique. Il va nous expliquer pourquoi il est assez inquiet sur ce qui se passe chez nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité dans le RH, c'est Nicolas Babrez, qui est économiste, historien, et qui publie un nouveau livre, L'Alerte démocratique, aux éditions L'Observatoire. Merci d'être avec nous, Nicolas Babrez. Bonjour. C'est un livre qui tombe bien, parce que vous dites, le problème, c'est que notre démocratie, ils sont un peu en train de se noyéter de l'intérieur et puis de céder au populisme. Mais d'abord, vous avez cette phrase sur les poisons de la peur et de la violence. Vous dites, la France, qui se targue d'être la patrie de la raison, est devenue le pays des grandes peurs, attisées par les médias et les réseaux sociaux qui contribuent à diffuser les théories, notamment complotistes. Mais est-ce que là, avec cette histoire d'épidémie du coronavirus, on n'est pas dans une grande peur? Est-ce qu'on ne joue pas à faire peur? Est-ce qu'on n'est pas dans une psychose? Lorsqu'on regarde les chiffres notamment de mortalité.
Alors, la théorie ou la grande peur, il y a un exemple en matière médicale qui était l'espèce de dénigrement du vaccin. Ce qui est le paradoxe, on a passé des années à dénigrer les vaccins en France et aujourd'hui tout le monde se demande...
Court derrière un vaccin.
Ouais, court derrière avec le vaccin du coronavirus. Je pense que cette crise, elle est très différente. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie pandémie à l'échelle mondiale. Donc c'est un événement qui effectivement est très dangereux. On peut faire le précédent en 1918, la grippe espagnole avait fait 50 millions de morts. On l'a peu su parce que c'était dans l'environnement de la fin de la Première Guerre mondiale. Je ne pense pas qu'il y aura autant de morts cette fois-ci. En revanche, le paradoxe, c'est que la peur est très grande dans nos pays à nous, où il y a une surinformation. Force est de constater qu'elle n'existe pas à l'inverse dans des pays qui, à mon avis, sont plus menacés, qui sont des pays du Sud, avec des systèmes de santé extrêmement défaillants, voire inexistants. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucun cas recensé au Myanmar, la Birmanie, alors que compte tenu de l'endroit où se trouve ce pays, on est certain qu'on a vu le cas de l'Iran, où là, les autorités ont bloqué toute information. Et puis, il y a la grande question de l'Afrique, sur laquelle, vraisemblablement, on aura beaucoup de morts. Donc, il ne fait pas de doute que la population mondiale va finir, tout le monde va être exposé d'une manière ou d'une autre, et on va avoir dans les pays, pour les personnes affaiblies ou vulnérables, et dans les pays avec des mauvais systèmes de santé, on aura effectivement des morts en nombre très important.
Il y a un pays que vous ne citez pas, et pourtant Dieu sait que c'est la mère de la démocratie, selon Tocqueville, c'est les États-Unis, parce qu'il y a un système de santé très défaillant, les plus pauvres ne peuvent pas se payer, système de protection sociale. Tout l'enjeu du reste de la campagne présidentielle, on dira un mot tout à l'heure. Il y a les États-Unis, là aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a un nombre de morts aux États-Unis déjà assez significatif, parce que l'aberration des États-Unis, Dieu sait qu'on a un certain nombre de travers en France, mais les États-Unis consacrent 18% de leur PIB à la santé, contre à peu près 12% en France, et on a 40 millions de gens qui ne sont pas couverts par aucune forme d'assurance en matière de santé.
C'est ce qui est un peu, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tous les cas, en exergue de votre livre, de l'introduction même de votre livre, on tombe sur la peste que vous citez d'Albert Camus, vous prenez un mot. La peste, c'est bon, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a les coronavirus qui allaient arriver.
Non, mais la peste de Camus, ça fait un lien entre la politique et le sanitaire. Donc évidemment, il faut faire très attention à ce genre de comparaison. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que aujourd'hui, donc ce risque de pandémie, on savait que c'était un des grands risques d'un monde qui était complètement ouvert, parce que en 1918, il a fallu des mois à travers les bateaux pour que cette grippe dite espagnole, alors qu'elle vient aussi de Chine, se répande partout dans le monde. Aujourd'hui, les épidémiologistes nous disent que un virus fait le tour du monde en 9 jours. Alors ensuite, il se diffuse plus ou moins vite, mais on est dans un tout autre monde. Et pour la démocratie, c'est vrai que la pathologie de la démocratie est mortelle, contrairement à ce que on veut croire, et elle meurt le plus souvent de l'intérieur, corrompue notamment par la démagogie, corrompue par l'individualisme ou les passions collectives, et notamment les passions nationales ou les passions xénophobes qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre.
Alors, il y a un autre impact économique, mais comme ça, c'est des sujets qui sont traités dans votre livre. Après, on reviendra peut-être plus sur le principe même de votre livre. Mais vous dites... En fait, la situation de crise de la démocratie, des démocraties qui, tout d'un coup, on redécouvre, elles peuvent être mortelles, c'est la démondialisation.
En fait, on a deux ordres de problèmes qui expliquent le choc populiste, c'est-à-dire les problèmes économiques et sociaux. Et ceux-là, ils sont incontestablement liés à la mondialisation, avec une entrée de la Chine non régulée dans le système mondial, et à la crainte de la révolution numérique. Et ensuite, on a les facteurs proprement politiques, la peur de l'islam, la peur de l'immigration, le grand désarroi identitaire, le désarroi identitaire, la montée de l'insécurité au plan intérieur et extérieur, et la peur du leadership chinois, puisque Xi Jinping, depuis le 19e congrès du Parti communiste, avance à visage découvert et explique que la Chine se propose d'exercer l'hégémonie mondiale.
Oui, sauf que là, il est sérieusement affaibli, mais ça, c'est un autre débat. La démondialisation, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y court ?
Alors la démondialisation, elle est déjà en route, c'est-à-dire que le cycle du capitalisme, de la mondialisation libérale, il a commencé en 1979, il s'est fini en 2008. Et aujourd'hui, on a non seulement donc, avec le protectionnisme, les droits sont quand même passés aux États-Unis de 3% à 19% en l'espace de 3 ans. Et on voit très bien qu'avant même cette crise, le commerce mondial était en train de diminuer. Donc on a ce choc politique, cette guerre commerciale et technologique, et on a deux autres raisons qui se rajoutent. D'abord, le problème de l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc le fait que cette contrainte écologique invite à de toute manière resserrer les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement. Et puis on a maintenant le choc sanitaire, le coronavirus, cette crise qui va aussi contribuer à la démondialisation.
Oui. Alors, vous avez expliqué déjà un peu la structure de votre livre, de votre propos en l'occurrence. Est-ce que le populisme, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un vrai danger pour nos démocraties ?
Alors,
au-delà de l'aspect intellectuel, oui, qu'on voit bien le cheminement.
Si vous voulez, c'est pas du tout un danger intellectuel et c'est pas une chimère de ma part. Comment va s'organiser le 21e siècle?
Oui,
on a d'un côté la démocratie, de l'autre côté les démocratures et le djihadisme. Sort de cette confrontation va dépendre de la capacité de la démocratie libérale à résister au populisme. Et le populisme, on l'a beaucoup sous-estimé parce qu'on a moqué les leaders. On oublie que c'est pas seulement protestataire, il y a un vrai projet politique. Et ce projet politique, par exemple, on le voit à l'œuvre en Hongrie, avec hommes forts, contrôle de la société, contrôle des universités, des médias, contrôle de l'économie par des oligarques, et progressivement, une opposition qui se trouve mise sous tutelle et un jeu électoral qui est complètement biaisé. Aujourd'hui, regardons les choses comme elles sont. Il y a des pays où on n'imaginait pas le retour de l'extrême droite, l'Allemagne, l'AFD, l'Italie, Salvini, Fratelli d'Italia, l'Espagne, Vox. Donc ce sont des réalités. Mmh. Et là encore, ça n'est pas que seulement dans le monde développé, on a des pays qui étaient quand même des démocraties. Regardons l'Inde avec le concept de nation ethnique de Narendra Modi. On a 172 millions de musulmans qui sont maintenant en situation de citoyens de seconde zone. Regardons le Brésil de Bolsonaro, regardons les Philippines de Duterte. Donc, si vous voulez, quand on voit cela, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. C'est qu'on est comme dans les années 30.
Mais c'est quoi ? C'est uniquement la globalisation ?
Non.
Qui conduit à ça, c'est
non.
quoi ?
Non, il y a la mondialisation et la bascule se fait à partir du krach de 2008 où on a sauvé les banques mais on a perdu les citoyens. Donc on voit très bien que la décennie 2000, c'est l'économie de bulle et le krach, qu'ensuite on a géré en rajoutant des dettes, et aujourd'hui le krach, c'est cette fameuse année 2016 où on a à la fois le Brexit et Trump. À partir de la moitié des années 2010, on a ce krach du capitalisme mondialisé qui se transforme en krach de la démocratie.
Parce que, justement, pour vous, Donald Trump est un crack, je reprends votre expression, un crack de la démocratie.
Oui, ça ne fait pas de doute, ça ne veut pas dire ça ne veut pas tout dire qu'il a forcément tort sur la Chine ou qu'il a tort sur le fait que l'Europe devrait réarmer et prendre les problèmes de sécurité au sérieux. Mais lambarder Trump, c'est-à-dire un tournant à la fois nationaliste, protectionniste et isolationniste des États-Unis, c'est un tournant qui est historique. C'est la fin du leadership des États-Unis de 1917 à 2016. Et le fait, si vous voulez, c'est ce qu'on voit avec la crise du coronavirus, on a d'un côté des risques mondiaux et de l'autre côté on a démantelé tout ce qui permettait de les gérer. Voire même, à force de se retirer, on a laissé par exemple les Chinois prendre le contrôle du système multilatéral. C'est vrai que l'OMS a été complètement défaillante au début de cette crise. Elle a été défaillante pourquoi ? Parce que le plus gros financeur, c'est aujourd'hui la Chine. Donc, ce mouvement de retrait de l'Occident... Et également, sa fragmentation, le fait d'avoir maintenant des États-Unis qui ciblent l'Europe, une Europe qui se fracture entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, et une Europe continentale qui se fracture entre démocratie libérale et illibérale, alors que les dangers sont en train de remonter, ça c'est vraiment... Et c'est une dynamique qui a été impulsée par le Trump, même si le repli des Américains...
Il a démontré que c'était possible.
Avec Obama, mais c'était un repli ordonné.
Oui, parce que Trump a quand même, entre guillemets, c'est un crack de la démocratie, pour reprendre votre expression, mais il a un côté plus, entre guillemets, convenable qu'un Orban. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans le même registre, encore. Alors peut-être qu'on se trompe.
On a des thèmes très différents, mais chez Trump, si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. Par exemple, la reprise en main de la justice. La manière dont Trump est en train de refaçonner la Cour suprême. Il faut toujours penser aussi qu'il y a beaucoup de juges, il y a des juges qui sont élus, mais il y a des juges qui sont nommés. Par exemple, Trump pas nommer 1000 juges dans des postes clés qui sont vraiment des idéologues, hein, en dehors de la Cour suprême. Donc il y a une pression sur le système judiciaire, il y a une pression sur le système médiatique qui est quand même extrêmement importante. Simplement, aux États-Unis, on a quand même une société civile qui, pour l'instant, résiste.
Un peu de sémantique, juste sur deux mots, parce qu'il y a deux mots qu'on utilise, qu'on voit apparaître. C'est toujours très intéressant. Tout d'un coup, hop, il y a des mots. Il y a eu le mot illibéral. Tout d'un coup, tout le monde, les sociétés, on parlait illibéral, c'est illibéral. Ça, c'était un mot. Et là, maintenant, on parle des démocratures.
Alors,
c'est intéressant de voir que.
La démocratie illibérale, ça a été. C'est un mot, alors on peut le sourcer très précisément. C'est Viktor Orban qui l'a à la fois mis en œuvre et qui l'a théorisé. Et ça, d'une certaine manière, c'est repris aujourd'hui par Vladimir Poutine. Donc, c'est l'idée, si vous voulez. C'est l'idée que la démocratie se résume à un vote pour reconduire un homme fort. C'est une espèce de conception
détournement de la
bonapartiste. Oui, voilà. Et on oublie l'état de droit, on oublie les contre-pouvoirs, on oublie le fait que la majorité n'a pas le droit de tyranniser les minorités. Quant à la démocrature, le terme avait été inventé par Pierre Asner après la chute de l'Union soviétique pour la transition entre des pays qui sortaient de l'orbite soviétique et qui rentraient dans la démocratie. Et si je puis dire là, pour le coup, je l'ai remis un peu
au
goût du jour, là, mais dans une autre acception, qui est l'acception de régimes qui sont maintenant, qui ne sont pas des régimes totalitaires, mais qui sont des régimes comme...
Vous mettez Vladimir Poutine, justement, dans les
démocraties. Vladimir Poutine est d'une certaine manière celui qui a théorisé ce modèle. Ouais. Et on le voit à l'œuvre d'ailleurs aujourd'hui, pour revenir à l'actualité. Vous voyez que normalement, dans un pays démocratique, on a des institutions stables et les dirigeants et les alternances se font. Ce qui est frappant avec la Russie, c'est que maintenant, depuis 1999, on a un dirigeant stable et qu'on change les institutions au fur et à mesure. Donc, alors, il y a eu l'échange avec Medvedev et maintenant, il y a la révision de la Constitution pour créer un Conseil d'État qui surplombera le tout et qui sera évidemment présidé par Vladimir Poutine.
Dans votre livre sur l'ère de la démocratie, vous racontez ce qui s'est passé. Alors, c'était du temps, évidemment, des Grecs. Vous racontez, vous faites une comparaison avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais vous entendre, Nicolas Bavray, c'est qu'est-ce que peuvent faire les démocraties pour éviter de mourir aujourd'hui?
Alors,
et notamment la France.
Athènes, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça reste la référence que tout le monde prend. La démocratie athénienne, elle a duré moins de 60 ans.
Oui.
Et avant d'être battue militairement par Sparte, elle est battue militairement par Sparte parce que les démagogues ont pris le pouvoir.
Oui.
Cléon et Alcibiade. Donc aujourd'hui, le message, c'est que la démocratie est en grand danger, mais qu'elle n'a pas encore perdu. Et donc, d'abord, les démocraties ont quand même des problèmes. On voit que la Chine n'a pas si bien géré que ça que le coronavirus. La Russie, c'est un désastre démographique et économique. Quant à Erdogan, il ne sait plus s'il est à l'Est, à l'Ouest. Et par ailleurs, son économie se dérobe aussi. Et surtout, on a des gens, si vous voulez, autant il y a la lassitude de la liberté pour les gens qui en bénéficient, autant on a des femmes et des hommes qui risquent leur vie à Hong Kong,
oui, mais ça, on l'oublie,
à Khartoum, à Alger, à Moscou, à Istanbul.
Ouais.
Et donc, ça, c'est fort. Alors,
mais nous, les démocraties vieillissantes, on oublie ça. On ne regarde pas ça.
On l'oublie parce qu'on considère que c'est un dû. Or, la liberté, ce n'est pas un dû, c'est quelque chose qui se conquiert, qui se construit. Alors, le défi que nous affrontons n'est pas sans précédent. À la fin du 19e siècle, en 1945, on a réinventé les démocraties avec de nouvelles formes d'association.
Mais au lendemain d'une guerre.
Au lendemain d'une grande guerre, mais d'une certaine façon, on peut dire que, de même qu'on a raté l'après-guerre de 1918, on a raté l'après-guerre de 1989, contrairement à 1945. Donc, à notre manière, nous sommes bien après une grande guerre et après un grand krach du capitalisme.
Alors, l'histoire...
Donc, qu'il faut faire quand même juste d'un mot, d'abord, le garant de la démocratie, c'est le citoyen. Il faut le réengager dans la vie publique.
Oui, mais il se réengage, c'est la question que j'allais vous poser. Il se réengage à travers les réseaux sociaux, ou quand même, c'est-à-dire, c'est l'expression très souvent du pire.
Il peut se réengager pour le pire, mais parfois aussi pour le meilleur. Rappelons-nous quand même que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a su qu'il y avait eu une épidémie en Chine. Il y a un bon usage des réseaux sociaux.
Enfin, il est mort,
hein,
celui qui nous a alertés, en l'occurrence.
Oui, mais il se trouve que de temps en temps, il y a des gens qui sont héroïques et qui, pour le bien commun, sacrifient leur vie. Il en fait partie. Et je pense qu'il ne faudra pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, vous voulez, l'art de la démocratie, c'est d'intéresser les gens à la vie publique, mais par des canaux multiples. On verra ce que donne la Convention citoyenne sur le climat, c'est peut-être un moyen. On a le réengagement dans la vie publique locale, on peut avoir des référendums, et les nouvelles technologies peuvent permettre d'associer les citoyens. Ensuite, on a besoin d'un nouveau contrat économique et social, et puis on a besoin de redécouvrir que la sécurité intérieure et extérieure, c'est la condition première de la liberté.
Est-ce que...
Et il faut pour ça avoir un état de droit qui refonctionne.
Est-ce que vous avez regardé la série Le Baron Noir avec Admirat, qui est absolument extraordinaire? Alors, vous allez voir pourquoi je vous pose la question.
Non, je dois confesser que je n'ai pas regardé.
Vous devriez,
la nouvelle...
parce que quand même, c'est assez étonnant. Notamment, je ne vais pas raconter la fin comme ça, mais il y a un candidat populiste, entre guillemets, Mercier. Lui, il l'est parce qu'il dit qu'il faut contrer le système, il faut contrer les élites, il faut une vraie démocratie. Et il est pour le tirage au sort. Le tirage au sort, on voit que même Emmanuel Macron l'a utilisé pour la conférence sur le climat. Est-ce que le tirage au sort, c'est la quintessence de la démocratie ou c'est la fin de la démocratie?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est certainement pas la quintessence. Le vote est fondamental, mais ça doit pas être exclu non plus. Comme je le disais, il faut redécouvrir que la démocratie, c'est complexe. C'est pour ça que les démagogues ont un champ énorme, parce que les idées simples et fausses sont toujours plus percutantes que les idées complexes, mais vrai. Donc, on peut tout à fait faire du tirage au sort sur des thèmes ponctuels. Il est certain que je ne vois pas du tout comment on pourrait faire vivre une démocratie uniquement sur le principe du tirage au sort. Et il y a quand même des démocraties...
C'est une manière de contourner les élites.
Oui, mais regardez, par exemple, la Suisse n'a pas besoin du tirage au sort. Elle associe, alors c'est un pays très particulier, mais via le référendum, les citoyens sont régulièrement consultés, ça fonctionne. En Europe du Nord aussi, on a des... Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour un pays comme la France, ça veut dire qu'il faut faire plus confiance au local et à la décentralisation. Mais ça, c'est vraiment un point qui est un point déterminant. Et il faut travailler, évidemment, sur un nouveau contrat politique, économique et social.
Ça sera peut-être d'Emmanuel Macron, on verra s'il y arrive. On dit un mot des élections américaines pour terminer cette émission, Nicolas Bavrès. C'est deux choses. Primaire démocrate, Super Tuesday, moyenne d'âge 75 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de cette démocratie? Est-ce que ça veut dire quelqu'un un petit peu malade avec un président qui a aussi largement 70 ans en place pour le coup?
Il y a deux choses à très court terme. C'est que maintenant, on a un duel Biden et Sanders, et que c'est ce qui pouvait arriver de mieux pour Donald Trump, puisque vraisemblablement, on va avoir de nouveau le centriste qui va finir par gagner.
Ouais. Mais, il faut voir,
Mais la polarisation, l'engagement très fort des électeurs Sanders, vraisemblablement, manquera à Joe Biden.
Plus à gauche, avec notamment réforme de la fiscalité.
Alors, à plus long terme, je crois que la question que vous posez, c'est la bonne, c'est-à-dire que cette démocratie américaine, tout n'est pas parfait chez nous, mais que la démocratie américaine est vraiment profondément malade. Elle est d'abord malade de l'argent. C'est invraisemblable.
Michael Bloomberg. Il nous reste 30 secondes. Michael Bloomberg, qui a mis plein d'argent, il est battu.
Certes, mais Trump a aussi mis plein d'argent et lui a gagné. Ouais. Par ailleurs, ces milliards déversés de manière d'ailleurs très agressive n'ont pas de sens. Et ensuite, on a effectivement une gérontocratie qui ressemble à l'Union soviétique de la fin. Et surtout, on ne peut plus continuer avec les règles du 19e siècle. La démocratie, c'est quand même le principe un homme, une voix.
Le système de vote est quand même très compliqué.
Aujourd'hui, aux États-Unis, que ce soit pour les primaires ou que ce soit surtout pour l'élection présidentielle, ça n'est pas du tout un homme, une voix.
Et du reste, la question se pose pour les élections municipales en France. Voilà, et pour Paris notamment. Oui.
Qu'il faut absolument travailler, y compris sur ces règles.
Merci beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que nous, on a élu quelqu'un de 39 ans. Et là, on a un président qui a 75 ans. Et puis, elle a une moyenne d'âge aussi très élevée. Intéressant. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci infiniment.
Franchement, c'est un livre à lire. L'alerte démocratique. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve dimanche BFM Politique. Et puis, lundi matin, avec notamment Amélie de Montchalin. On parlera de l'Europe et du Brexit. Ça aussi, c'est pas triste.